session de théologie « La parole de Dieu » par le Père Samuel à Rimont, le 30 octobre 1992, troisième cours.
Alors pour resituer ce qu'on a vu ce matin, donc on a essayé de comprendre ce qu'on appelle les conditions de réception de la révélation. C'est ce qu'on appelle la théologie fondamentale. Le travail de la théologie fondamentale, c'est de voir comment l'homme reçoit la révélation. Et on a essayé de voir que cette révélation, elle est reçue dans la personne humaine, dans une personne humaine qui est dans un état de brisure, si vous voulez, ou de déchéance, dans un état tragique, dans un état de détresse. Donc il y a une attente du salut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fallait que l'homme soit dans l'attente du salut pour que la révélation lui soit donnée. Ça, ce n'est pas tout à fait juste, vous voyez. Ce n'est pas une condition sine qua non. Il n'y a pas un lien de nécessité entre la révélation et l'attente du salut. Mais il y a un lien de fait. Il y a un lien d'économie divine, il y a un lien de sagesse. Et que cette révélation, parce qu'elle est reçue à travers la parole de Dieu, elle n'est pas reçue qu'à travers la parole de Dieu, mais elle est reçue à travers la parole de Dieu, elle est reçue dans l'intelligence. Mais elle est reçue aussi dans la volonté, parce qu'elle est une parole de salut. Donc, au fond, c'est toute la personne qui reçoit la parole de Dieu. Et on a vu que le travail de la théologie est un travail qui doit respecter ces conditions. Vous voyez, la théologie n'est pas une... Alors que la théologie philosophique, j'allais dire, elle part de l'expérience de ce qui est. La philosophie part de l'expérience de ce qui est. Elle part de mon expérience. La philosophie ne part pas de ma détresse. La philosophie n'a rien à voir avec ma détresse. Ça peut être une manière de chercher plus intensément la vérité. Mais ma philosophie, elle est analytique. J'analyse en philosophie. Je ne suis pas dans le vécu. Il y a une différence entre ma philosophie et ma vie. Ma vie n'est pas la philosophie. Ma philosophie, c'est un travail de l'intelligence à partir de mon expérience. Et la théologie philosophique, c'est d'essayer de voir ce que je peux atteindre par mon intelligence de l'être premier. D'accord ? Donc j'allais dire, ce sur quoi s'appuie la philosophie, c'est l'expérience de la réalité. C'est pas vrai la théologie, au sens de la théologie chrétienne. Vous voyez, la théologie chrétienne, c'est pas une super théologie. La théologie chrétienne, c'est pas une réflexion sur le donné révélé. Vous voyez ? Voilà. Là, je découvre que Dieu est. La révélation me dit que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Donc, je prends ça et puis je réfléchis dessus. La théologie, ce n'est pas d'abord de réfléchir. La philosophie non plus, d'ailleurs. Vous voyez, mais... Parce que ça risque de devenir ça, la théologie. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous prenez le contenu de la foi, vous prenez la foi catholique de Dumège, là, vous avez tout ce que vous dit l'Église. Ou le credo, puis vous allez réfléchir conceptuellement dessus. Ça, c'est pas de la théologie, ça c'est de la spéculation, si vous voulez, mais c'est pas de la théologie. La théologie, elle part de l'expérience du salut. Elle part du don de la grâce, la théologie. Donc, ma vie est théologique. Il n'y a pas de rupture entre la théologie et la vie. La théologie se fait à l'intérieur de la foi.
Oui.
Ce que je vous disais ce matin en vous disant que la théologie s'appuie sur la foi, ça se fait à l'intérieur de la foi. C'est-à-dire que ma théologie, elle nourrit ma vie de foi. Ce qui n'est pas vrai de la philosophie. La philosophie, il y a une rupture par rapport à ma vie. J'analyse, je suis dans l'abstraction en philosophie. En théologie, je ne suis pas dans l'abstraction, je suis dans la foi. Vous voyez la différence? Parce que la foi, évidemment, est contemplative. La vie chrétienne est nécessairement, elle est intrinsèquement contemplative, la vie chrétienne. Vous voyez ce que, encore une fois, nous, on a tendance à regarder la théologie de deux manières. Alors, ou bien il y a la théologie en Sorbonne, ou dans les facultés. Alors, on fait, vous voyez, on prend le donné, ce qu'on appelle le donné révélé, comme si on le comprenait, et puis on spécule dessus. On spécule sur les concepts. C'est une des manières de lire saint Thomas. Ça s'appelle la scolastique. D'accord? Ou bien on dit, mais au fond, et le jour où on découvre qu'au fond, ça ne fait pas vivre la foi, on laisse tout tomber. On dit, nous, on lit la parole de Dieu, et puis on vit la lectio divina, point de la ligne. La difficulté de la théologie, il faut bien la voir. Qui est la difficulté, d'ailleurs, de la croissance de la foi. Hein, parce que les deux sont liés. Toute croissance de la foi, c'est une théologie embryonnaire. C'est précisément de comprendre que ce développement, ce travail de l'intelligence ne consiste pas à réfléchir sur le contenu de ma foi, mais consiste à mieux recevoir le mystère. Moi, j'allais dire, le travail de l'intelligence, c'est un travail de réceptivité. C'est l'intelligence qui apprend à recevoir le mystère. Or, ma vie chrétienne, c'est essentiellement la réception du mystère. Parce que cette réception, elle est vitale. Alors qu'au point de vue humain, la réception du réel par mon intelligence, c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est d'aimer. Et il y a une distinction entre connaître l'ami et l'aimer. Il n'y a pas de distinction entre connaître Dieu et l'aimer. La foi est inséparable essentiellement et substantiellement de la charité. Substantiellement, il n'y a pas de substance. Vous voyez la différence? Donc vous n'avez pas d'un côté, je dis ça parce qu'il y a un grand débat sur l'orthodoxie et l'orthopraxie. Que c'est un des grands débats de la théologie contemporaine. On vous dit, jusque-là, c'est caricatural évidemment, on spéculait. Et la mesure de la foi, c'était la spéculation théologique. Confère la scolastique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'évangile, c'est pas d'abord du baratin, c'est d'abord de la vie. Et donc la mesure de ma foi, c'est la vie chrétienne. Faut pas rêver, je veux dire. Oui, les excès de l'action catholique, c'est ça. C'est-à-dire, la manière dont l'action catholique va déterminer une théologie, l'action catholique, c'est très important. L'action catholique, c'est vraiment de comprendre que la vie chrétienne, elle se joue que dans l'action. Il suffit pas de spéculer, ni même de faire oraison, il faut aimer concrètement. C'est sûr. Mais si ça n'est que ça, vous voyez, la charité n'est pas la seule. Ma vie chrétienne, ce n'est pas que l'exercice de la charité fraternelle. Eh bien, ça, c'est une distinction qui est pas chrétienne. Parce que la foi, elle est contemplative et éminemment pratique. La foi, c'est tout aussi pratique que contemplative. Donc, ça n'a pas de sens de dire la théologie, c'est spéculatif. Non, la théologie, c'est contemplatif. Alors, dans la théologie, il y a des phases plus spéculatives et des phases qui sont plus pratiques. La théologie scientifique, par exemple, celle de saint Thomas, la théologie scientifique, c'est sûr qu'elle implique une abstraction plus grande que la théologie mystique, par exemple. Mais elles sont intrinsèquement une. C'est ça qui est capital. La vie divine, vous comprenez, c'est pas de l'abstraction. Mais la vie divine, c'est pas de ranger, vous voyez, je ne sais pas trop quoi, de ranger, de nettoyer le réfectoire avec amour. C'est plus concret que de ranger le réfectoire avec amour, la vie divine. Et c'est pas parce que la théologie se tourne vers le mystère de Dieu qu'elle est abstraite. Ça n'a pas de sens de dire ça. La philosophie se tourne vers le problème de Dieu à travers l'abstraction. Ça, c'est sûr. La théologie, l'intelligence du théologien se tourne vers le mystère de Dieu, premièrement de manière vitale dans la foi. Vous voyez, la théologie se développe à l'intérieur de l'acte de foi. C'est ça qui est capital à comprendre. Oui.
La théologie fondamentale par rapport à la théologie philosophique et à la théologie...
Précisément, elle est un peu particulière. La théologie fondamentale, c'est d'essayer de comprendre le lien entre les deux.
D'accord.
Comment l'homme reçoit la révélation ? Qu'est-ce qui, dans l'homme, prépare le mystère de la révélation ? D'accord ? Alors, ce qu'on va regarder maintenant, donc vous voyez qu'il y a un lien entre la compréhension de la foi, la compréhension de la théologie, la compréhension de la révélation. C'est la difficulté, hein, d'ailleurs, de la théologie, c'est qu'en philosophie, on distingue clairement. Parce qu'on n'est pas face à un mystère qui n'est qu'un. On distingue. En philosophie, on distingue, mais on est toujours obligé de revoir qu'il y a une unité fondamentale. Ou si vous voulez, d'une autre manière, on pourrait dire que la vie divine, puisque au fond, la vie chrétienne, c'est uniquement ça, c'est la vie divine en moi, la vie chrétienne. Bien, la vie divine s'empare de toutes les dimensions de ma personne, mais elle s'en empare avec une unité qui est beaucoup plus radicale que l'unité même de ma personne. Si vous voulez, la vie chrétienne, c'est la simplicité divine qui s'empare de la complexité humaine. Mais la simplicité divine que me fait vivre la grâce est bien plus simple et bien plus une que mon unité, même mon unité d'être. C'est pour ça qu'on est perdu en théologie. Parce qu'on remonte toujours de la complexité à une unité et une simplicité qui nous dépassent complètement. Et il faut accepter, vous voyez, qu'au fond, cet effort pour recevoir de mille et une manières le mystère de la grâce, puisque c'est ça la théologie, nous apprend à vivre au rythme de la sagesse de Dieu. Pour pas trop humaniser ni la parole de Dieu, ni la sagesse divine. Donc la théologie est juste l'inverse, vous voyez, j'allais dire, d'une traduction humaine de la sagesse de Dieu. C'est pas ça du tout la théologie. On va voir que la parole de Dieu non plus. La parole de Dieu, c'est pas Dieu qui s'est dit, au fond, ces pauvres petits, je vais leur faire un discours qu'ils soient capables de comprendre. La parole de Dieu, c'est d'abord l'attraction de Dieu, de la simplicité de la lumière divine sur mon intelligence. Vous voyez, c'est un travail ascensionnel, la théologie, comme la parole de Dieu. C'est pas d'abord un travail descendant, c'est pas de l'adaptation divine. Si Dieu s'adapte à mon intelligence dans la parole de Dieu, on va le revoir, et si au fond, par la théologie, j'essaye d'adapter encore plus la parole de Dieu à l'intelligence humaine, c'est pour pouvoir laisser l'intelligence humaine être attirée par Dieu. La finalité du mystère de l'incarnation, c'est pas que Dieu soit au milieu de nous, c'est qu'on soit au milieu de lui. Le but, s'il est descendu si bas, c'est pour nous déménager là-haut, mais c'est pas l'inverse. Et c'est capital, vous voyez, de voir ça comme ça. Donc faire du catéchisme ou faire de la théologie, si vous voulez, c'est pas monnayer à travers des petites images et des jolies histoires, ce qui est au fond le mystère de Dieu. C'est de laisser l'Esprit Saint aller chercher les recoins de l'intelligence de l'enfant, de l'adulte, du vieillard et de l'handicapé, pour l'attirer à la lumière divine. C'est un travail d'ascenseur, si vous voulez, c'est pas un travail de descente. Relisez la petite Thérèse. Et donc c'est pour ça que c'est rude. C'est pas rude parce qu'on n'est pas assez intelligent. C'est rude parce qu'on ne se laisse pas assez attirer, c'est tout. Mais c'est important dans la démarche. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'insister, vous voyez, sur la manière dont ceux qui préparent la réception de la révélation, de la parole de Dieu et le travail de la théologie, c'est la mendicité de l'homme qui a besoin du salut. Et donc qui est tout tourné, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que Dieu bouge, pour se précipiter sur sa réponse. Et le risque, nous, de notre foi chrétienne, vous voyez, c'est qu'on est un peu des consommateurs. On est installé dans le fauteuil et on attend que Dieu nous explique. Parce que on est, pas toujours, hein, mais souvent, j'allais dire, la soif et la nécessité du salut et de la lumière divine n'est pas assez aiguisée en nous. On est des sacristains, si vous voulez, on est habitués qu'on est sauvés. On le sait, ça fait partie du décor et du patrimoine. C'est le risque, hein. Mais vous voyez, ça, du coup, toute l'attitude est tordue, et je veux dire, tout le travail théologique est tordu. Je suis, si vous voulez, je ne sais pas comment vous dire, je gère mes biens. Et à ce moment-là, vous voyez, la théologie, ça devient la gestion de la tradition. C'est-à-dire qu'on reprend, relisez que, même les textes qu'on écoute au réfectoire. On a l'impression souvent qu'au fond, il s'agit, on prend des textes de ci, de là, et on dit des choses qui, en grosso modo, ne sont pas fausses. Et on a l'imprimatur, et ça s'appelle de la théologie. On prend le Concile Vatican II, on prend la parole de Dieu, on prend tel père de l'Église, vous voyez, puis on fait une petite soupe patrimoniale, quoi. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires de famille. Et comme au fond, on est tellement habitué à ce que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on dit, ben, on redit les mêmes choses un peu autrement. Vous voyez, il fait bon de temps en temps avoir eu besoin de la parole de Dieu pendant un certain nombre d'années. Oui, je crois que ça devrait faire partie de notre vie chrétienne que de laisser l'Esprit-Saint nous donner de manière beaucoup plus aiguë le sens de la nécessité dans laquelle nous sommes de la lumière divine. Et la philosophie aide à ça. La philosophie doit m'aider à crier famine. Du coup, quand on me donne une miette de pain, je la consomme jusqu'au bout. Et je ne suis pas là en disant, mais vous comprenez, je viens de manger du gâteau. Vous voyez, ça, encore une fois, ça, c'est pour ça que je crois que c'était important de passer par ce détour, pour comprendre comment la révélation, elle est reçue dans le cœur du pauvre, de celui qui a absolument besoin de ce qu'on lui donne. Et du coup, le travail d'atelier, encore une fois, est un travail ascensionnel. Qui, effectivement, pour être plus ascensionnel, implique la condescendance de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'adapte à moi comme personne n'est capable de s'adapter à moi. Mais ce n'est pas pour venir s'installer chez moi. C'est pour venir me faire déménager chez lui. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, ça dit bien. Donc ce que je dis, c'est que le travail théologique, quand il est compris dans cette lumière-là, est inséparable de la vie d'oraison ou de la vie divine. Et il ne faut pas qu'il soit séparé. C'est-à-dire que tout autre exercice de la théologie, j'allais dire, il peut être universitaire, il peut être littéraire, il peut être tout ce que vous voulez, mais j'allais dire, il est déjà plus tout à fait selon la ligne de la foi. Et c'est pas commode, hein, parce que on s'habitue trop vite, c'est le grand risque. Et la tradition, si je la comprends bien, c'est pas du tout un patrimoine, si vous voulez, où on me dit voilà le musée. Promenez-vous dans le musée de la foi, alors vous avez les pères, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, alors ils ont dit plein de choses, puis vous glanez chez les uns et les autres en disant pas trop de bêtises, et vous êtes sûr d'être à peu près, en gros, si vous voulez, dans l'axe, quoi. C'est pas du tout ça la tradition. La tradition, c'est que il me soit donné des témoins qui sont morts de soif. C'est tous les gens qui sont morts de soif, la tradition. Donc le but, c'est d'aiguiser la soif, c'est pas de me remplir de soi-disant réponses. La tradition ne me donne aucune réponse. Elle me dit ce dont je dois avoir soif. C'est pas du tout la même chose. Comme le credo. Si vous sortez du credo en vous disant mais c'est bien, j'ai compris. Mais vous avez de la chance. Le credo, c'est la formulation de la soif de mon cœur d'une manière qui est celle du dogme et de la théologie. Donc si vous voulez, le credo, c'est pas ce en quoi je crois, comme si au fond ça fait partie de mon bagage. C'est ce que je veux laisser s'emparer de moi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est l'attitude est radicalement autre. Donc ça montre au passage que, évidemment, le travail de la théologie est inséparable de la vie d'oraison. C'est clair, et du travail de la parole de Dieu. Et de la vie chrétienne tout court. Alors ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est pourquoi la parole de Dieu. Dieu ne se révèle pas que par sa parole. Il se révèle, d'une part à travers les sacrements, ça c'est ce qu'il y a de plus proche de nous. Il se révèle à travers les événements, ce qu'on appelle les mirabilia dei, les merveilles de Dieu, les interventions divines. Le passage de la mer Rouge, ce n'est pas une parole de Dieu, le passage de la mer Rouge. La théophanie de l'Horeb. La nuée sur l'attente, ce n'est pas d'abord une parole. C'est une intervention divine. Dieu se révèle aussi à travers les personnes. Même à travers les choses, à travers les animaux, l'ânesse de Balaam, la colombe du baptême. Donc Dieu se sert de, Dieu est capable de se servir de tout pour se révéler. Il se sert du rite religieux dans les sacrements. Mais il se sert de manière particulière de la parole. C'est vrai, Dieu aurait pu me laisser des fresques divines. Si vous voulez, à la place de la parole de Dieu, on aurait eu les fresques de Lascaux, mais qui m'auraient révélé. Il aurait pu me laisser des icônes, le bon Dieu. Il m'a laissé l'écriture. En plus, il l'a fait écrire. Donc, vous voyez, ça fait partie de cette réflexion sur les conditions de la révélation. Pourquoi Dieu, d'une part, a choisi de manière privilégiée la parole, et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'en plus, il a voulu que ça soit écrit, avec tous les problèmes que ça pose. Parce que tout le monde sait que quand on se met à écrire, on fait plus de fautes que quand on transmet par oral. En plus, il n'a pas écrit dans toutes les mêmes langues, il n'a pas fait écrire dans les mêmes langues. Il y a du grec et il y a de l'hébreu. Avec tous les problèmes de traduction inimaginables que ça pose. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est faite pour les enfants de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes universitaires d'hébreu et de grec pour comprendre la parole de Dieu. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il a choisi la parole? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'elle soit écrite? Donc, pour essayer de comprendre les convenances qu'il y a entre la sagesse de Dieu, sa sagesse révélatrice et rédemptrice. Et l'usage de la parole, je dois d'abord essayer de comprendre ce que c'est que la parole. Pour comprendre pourquoi Dieu s'est servi de tel instrument, il faut que j'essaye de comprendre ce qu'il est cet instrument. Quelle est la convenance entre la parole et la manière dont Dieu veut se révéler à nous ? Alors, ultimement, c'est sûr que ce qui m'explique pourquoi la parole, c'est Jésus. Ça, c'est sûr. Ce que vous verrez surtout avec le Père Philippe, vous voyez, c'est qu'au fond, le... ça, je peux le dire d'avance, vous voyez, même si je ne comprends pas encore comment, ça va être le travail de la théologie, je peux d'avance affirmer que si Dieu me parle à travers sa parole, et même veut qu'elle soit écrite, c'est pour mieux recevoir le Christ. Ça, c'est sûr. Avant même que je comprenne comment. Mais tout le travail de la théologie, ça va être précisément de comprendre comment. Et donc c'est le Christ qui va éclairer la parole de Dieu. Mais travailler sur la parole de Dieu et sur la parole elle-même va m'aider à mieux entrer dans le mystère du Christ. Vous voyez, c'est le Christ qui est la mesure de la parole de Dieu, pas la parole de Dieu qui est la mesure du Christ. Et donc il est nécessaire, un peu comme tout à l'heure, ce matin on a travaillé sur le, au fond, ce qui dans le cœur de l'homme, dans une lumière philosophique, peut préparer l'accueil de la révélation, d'essayer de voir quelles sont les virtualités naturelles de la parole. Pourquoi la parole? Qu'est-ce que c'est la parole? C'est vrai, il ne faut quand même pas exagérer. À la messe, vous avez, après avoir lu la lecture, vous dites « parole de Dieu ». Ce qui est assez énorme, je ne sais pas si vous réalisez ce que vous dites. Et vous, vous répondez, comment est-ce qu'on dit? Gloire à toi Seigneur, voilà. Louange à toi Seigneur Jésus, ben, c'est magnifique, mais... ça ne vous choque pas, vous avez votre frère qui lit un texte et il vous dit, voilà la parole de Dieu. Et vous dites, ah, pas de problème, pas de problème, c'est la parole de Dieu. Il ne vous dit pas, voilà ce que Dieu nous enseigne. Il ne vous dit pas, je viens de finir la lecture de l'enseignement de Dieu. C'est lui qui vient de parler, non? C'est pas le texte. Le texte, c'est pas une parole, c'est un texte. Donc il ne dit pas, voilà le texte du Seigneur. Acclamons l'écriture de Dieu. C'est lui qui vient de parler. Il vous dit, parole du Seigneur, vous dites oui. Ça ne vous pose pas de problème. Donc la question, c'est pourquoi Dieu se sert, avant de voir, vous voyez, comment Dieu se sert de la parole, savoir ce que c'est que la parole. C'est clair que là, on touche un problème philosophique qui est très actuel. Hein. Ça fait 150 ans, un peu moins, que la philosophie s'est beaucoup penchée sur la parole. Même parfois exclusivement sur la parole. Avant les sciences, on va le voir, les sciences contemporaines, les sciences humaines et la philosophie contemporaine, les deux grands philosophes qui se sont penchés sur la parole, c'est Platon et Aristote. Le Moyen-Âge n'a pas ajouté énormément de choses quant à la parole. Platon, qui est le premier à se poser la question de savoir quel est le lien entre la parole et le réel. Oui, je sens bien que la parole, elle, c'est un moyen de communiquer qui est spécifiquement humain. Les animaux crient, mais ils ne parlent pas. Ils communiquent, si vous voulez, mais ils ne parlent pas. Donc le problème, c'est le lien entre la parole et le réel. Entre les mots, et puis la réalité qu'ils désignent. Évidemment, vous allez voir, tout ça, ça rend les choses très compliquées, mais Dieu s'en sort. C'est vrai, c'est très bizarre que pour désigner une chose, plutôt que de la montrer, vous vous serviez d'un mot, qui est en plus variable selon les langues. Et la question de Platon, c'est est-ce qu'au fond, il existe un lien naturel de nécessité entre le mot et la chose ? Est-ce que les mots contiennent les choses ? Autrement dit, est-ce que les mots est quelque chose de purement conventionnel, vous voyez, qu'il faut laisser, enfin, sur lequel il faut passer, comme les sens interdits ou les feux rouges. Enfin, il ne faut pas passer au feu rouge, mais... Vous voyez, est-ce que c'est purement conventionnel ? Ou est-ce qu'il y a un lien de nécessité entre les deux ? Pensez au Coran. Le Coran n'est pas traduisible. Il est parole de Dieu. Il est la présence même de Dieu, d'ailleurs. Il est plus que la parole. Le Coran est, pour le musulman, analogue à Jésus. Il n'est pas analogue à la parole de Dieu. Dans sa langue même. Et la langue du Coran ne peut pas être autre chose que l'arabe. C'est intrinsèque. Donc, quel est le lien ? Ça, c'est la question que pose Platon. Et alors, il ne répond pas. Comme beaucoup de choses, Platon pose beaucoup de questions. C'est ça, c'est sa grandeur. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il est... Après Socrate, qui l'éveille à la philosophie, mais les réponses qu'il donne, c'est rare qu'il donne de vraies réponses. Alors, il n'a pas une réponse de Normand, si vous voulez, mais au fond, il y a quelque chose, il y a quand même un lien, mais c'est pas la même chose. Le second qui travaille surtout sur la parole, et je vais vous dire ce texte-là, qui va servir à tout le Moyen-Âge. Donc, le Moyen-Âge ne va être, j'allais dire, au niveau de la réflexion sur le langage, qu'un commentaire d'Aristote. Il y a deux grands lieux où Aristote parle de la parole, c'est quand il parle de l'interprétation. Vous voyez, on n'a pas attendu l'herméneutique contemporaine pour parler d'interprétation. Parce qu'Aristote est très attentif précisément sur la distance qui existe entre les mots et la réalité. Parce que quand vous parlez en philosophie, Pour Aristote, le but, c'est de parler, c'est de vous faire comprendre le réel. Aristote, ça lui est complètement égal que vous compreniez les mots qu'il dit. Et de temps en temps, il vous dit, voyez, il n'y a pas de mots, mais comprenez. Le langage n'a pas inventé de mots pour vous désigner ce dont je vous parle. Et puis, de temps en temps, il invente des mots parce que le langage n'en avait pas qui soit approprié, donc il les compose. Pas trop, parce que, voyez, il ne faut pas être verbeux, mais... un minimum, c'est-à-dire qu'il se sert du langage. Le but, c'est de parler du réel. Mais pour pouvoir réaliser les difficultés et les avantages de l'usage des mots, il réfléchit sur le lien entre le mot et la réalité, dans l'interprétation. Et le second où il en parle, c'est dans la politique. Où il montre comment la parole est constitutive de la communauté humaine. Où il dit au fond, ce que j'échange de proprement humain dans la communauté, c'est d'abord la parole. Parce que l'échange des biens matériels, enfin vous voyez, même les animaux se partagent le travail. Les abeilles s'organisent, vous voyez, selon... Mais ils ne s'échangent pas le langage. Et il dit, le langage, la parole, permet des échanges entre les hommes sur le bien et le mal et sur la justice. Oui, la parole dans la communauté est ce qui permet l'exercice d'un bien commun. Parce que c'est vrai, on est capable de rechercher le bien commun à partir du moment où on est tous à peu près d'accord sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Si on n'est absolument pas d'accord sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, il n'y a pas moyen qu'il y ait de communauté. Et c'est la justice qui formule le bien et le mal. Donc la formulation du bien et du mal est ce qui permet à des êtres différents les uns des autres de vivre en commun. Comme être humain, pas comme troupeau. C'est très astucieux ça de la part d'Aristote. Gardez-le en mémoire, vous verrez quand on travaillera sur la parole de Dieu. Alors l'autre grand texte, c'est celui de ce qu'on appelle le Péri-Herménéias de l'interprétation, qui est un tout petit texte. Voilà. Attends, je ne trouve plus. Voilà. Il commence comme ça. Il faut d'abord établir la nature du nom et celle du verbe. Ensuite, celle de la négation et de l'affirmation, de la proposition et du discours. Vous voyez le problème d'Aristote, c'est au fond, comment est-ce que ce que je dis m'introduit au réel ? Je vous dis la chaise. Où je vous dis marcher, c'est pas la même chose. Je ne vous désigne pas la même chose du réel. Et quand je vous dis la marche du promeneur, ou bien le promeneur marche, c'est pas la même chose. Donc là, j'ai deux mots pour désigner, sous deux angles différents, la même chose. Se promener et la promenade, c'est pas la même chose. Enfin, je désigne la même réalité, mais selon deux angles différents. Et le langage, c'est ça, l'intelligence du langage. Je veux dire, plus le langage, je veux dire, c'est joué sur ces différentes facettes, et plus il est riche. Les sons, alors c'est là qu'Aristote, c'est le grand texte où Aristote précise le lien entre... Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme. Vous avez les sons. Sont liés à la voix. Ce sont les symboles des états de l'âme. C'est-à-dire de ce que l'âme a pâti du réel. Et les mots écrits, alors ils font l'analogie, les mots écrits, les symboles des mots émis par la voix. Donc là aussi, vous avez un rapport symbolique. Entre le son chat, le mot chat, et la réalité qu'est le chat, vous avez un double rapport symbolique. Et c'est astucieux parce qu'Aristote dit au fond, ce qui nous renvoie d'abord au réel, c'est la voix, c'est pas l'écriture. D'accord ? Donc pour Aristote, il ne faut jamais oublier que l'écriture n'est que la retranscription symbolique de la parole. Mais ce qui renvoie au réel, c'est la parole, c'est pas l'écriture.
D'accord ? Là, vous avez l'écriture, la parole et la réalité. Et il dit, de la parole à la réalité, il faut passer par l'âme, par l'intelligence. Mais Aristote ne dit pas l'intelligence, parce qu'il y a l'âme plus l'affectivité.
C'est très astucieux de dire ça. Quand vous voyez un gros chat, il y a les gens qui aiment les chats, il y a les gens qui n'aiment pas les chats. Puis les gens, les chats, ça les est complètement égal.
Ce que voit votre âme, entre guillemets, ce que votre intelligence perçoit, c'est le chat. C'est un chat, pour tout le monde, c'est un chat. Mais la connotation affective n'est pas la même. Des fois, ça déforme même la manière de le souvenir. C'était un très gros chat, très méchant. Évidemment, vous en avez peur, donc du coup, il était très gros. Mais si c'est les chats ne vous intéressent pas, vous dites non, c'était une petite chose tout à fait innocente. Ça, normalement, ça ne joue pas sur la perception immédiate. Hein. C'est-à-dire que vous déformez pas quand même. Bien qu'on s'imagine plein de choses. On croise son frère et tout d'un coup, on s'imagine quantité de choses qu'il nous en veut et tout. Il n'y a rien, aucun fondement réel. Donc même la perception physique, en est, vous voyez, on va accentuer, on va déformer les traits en fonction de l'affectivité. Et le pauvre, il va, je ne sais pas trop quoi, froncer le sourcil parce qu'il a mal au pied. Et voilà, il m'en voulait. Donc la perception de l'âme, elle ne sépare jamais l'intelligence de l'affectivité. Et le son est le symbole de ce que l'âme a reçu. Mais il est le symbole dans le, j'allais dire, dans l'agencement des sons et dans la voix. Alors Aristote ne dit pas la tonalité de la voix. Ça, Aristote ne le précise pas, mais nous on peut le préciser, c'est que la tonalité de la voix est plus liée à l'affectivité. Ce qui, dans la prononciation du mot, renvoie à l'aspect affectif, c'est le ton de la voix. Dans la manière de raconter l'histoire, vous pouvez voir qu'il avait très peur du chat dont il parle. Mais ce qui renvoie à la réalité dans son intelligibilité, c'est l'agencement des sons. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, parce que quand vous avez une langue comme le chinois ou le coréen dans lequel les variations sonores sont déjà très grandes, la connotation affective est différente. Oui, parce qu'en français, c'est simple, les sons, c'est tout à fait plat. C'est plat, la langue française. C'est celle qui a la variation sonore la plus faible. Donc du coup, vous percevez très nettement la connotation affective. Parce que chat, ça se prononce, vous prenez quelqu'un du midi et quelqu'un du nord, un alsacien, ça, en gros, ça se prononce dans les mêmes, vous voyez, les variations sont ridicules à côté de ce que c'est que le chinois ou le coréen. Donc quand il y a des variations affectives, vous les entendez tout de suite. Alors que je suis certain qu'un français apprenant le chinois et allant entendre un chinois a sûrement du mal à percevoir la note affective. Parce que c'est comme quand vous chantez, vous voyez, il y a déjà toute une mélodie. Donc c'est pour dire que la richesse de la parole, c'est ça. C'est qu'au fond, elle me renvoie au réel, non seulement dans sa dimension intelligible, mais dans sa connotation affective. D'accord ?
Dans le son, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'objectif au niveau affectif ou pas ? C'est purement...
Ah si, c'est objectif, le son. Chat, ça se prononce chat.
Oui, mais dans les sons, est-ce qu'il y a déjà un affectif qui est inscrit dedans ?
Ah, ça, c'est toute la question. C'est la question de Platon, ça. Est-ce qu'au fond, selon... Si, par exemple, toute une civilisation a peur du chat, est-ce que, du coup, la manière dont il va le prononcer dans sa langue dénotera cette crainte ? C'est pas impossible. Ça, c'est sûr. On va en reparler hein, ensuite. Il dit qu'il y a un rapport symbolique, il ne dit pas quels sont. Vous voyez, il dit qu'il y a un rapport symbolique. Puis après ça, débrouillez-vous, il n'explique pas hein, qu'est-ce que c'est qu'un rapport symbolique. Et Aristote n'explique nulle part dans les œuvres qu'on a ce que c'est qu'un symbole. Mais c'est comme toujours, il vous dirait, c'est pas en vous expliquant ce que c'est qu'un symbole que vous allez comprendre quel est le rapport entre les deux. C'est l'inverse. Comprenez le rapport entre les deux et vous comprendrez ce que c'est qu'un symbole. Parce que ce dont j'ai l'expérience, ce n'est pas d'abord du symbole. C'est du chat et de mon frère qui me dit chat. D'accord. Ensuite, vous avez un second rapport symbolique entre le son et la manière de l'écrire. Pourquoi vous avez un T ? C'est tellement stupide, cette histoire-là.
Vous me direz parce qu'il y a les chatons, mais d'accord, mais c'est pas la peine de mettre un T. La langue française est truffée de symbolismes scripturaires qui n'ont rien à voir avec le symbolisme verbal. D'accord ?
Donc ça, c'est le deuxième problème. Et nous, c'est ce qu'on a, hein. L'écriture, c'est ça, pour la parole de Dieu. Parce qu'évidemment, je ne perds pas mon fil, vous voyez, c'est que nous, on se retrouve face à ça.
Mais comment ça a été prononcé, vous pouvez toujours... vous savez pas. On voit bien la manière... Des fois, on est prodigieusement exaspéré par la manière dont on vous prononce l'évangile ou l'épître. Et rien que la manière dont on vous la prononce, c'est fini. Vous pouvez même plus la recevoir comme parole de Dieu. Parce que c'est tellement l'oncle Jules ou le cousin Antoine qui a prononcé ça, qu'au fond, et ça, vous voyez, son affectivité individuelle transpirait tellement que l'aspect, c'est fini, c'est plus possible. La disposition à la recevoir comme parole de Dieu est anéantie. C'est normal, c'est le risque. Donc Aristote dit juste ça. Et il dit, et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes. Bien que les états de l'âme, dont ces expressions sont les signes immédiats, soient identiques chez tous. Donc il dit, ce qui est le même chez tous, c'est ça. Alors, nous on pourrait ajouter avec des connotations affectives différentes, mais l'intelligibilité, elle est la même. Un chat, c'est un chat, que vous soyez égyptien, chinois, japonais, c'est un chat.
Ce qui varie, c'est la retranscription symbolique de l'âme à la voix et de la voix à l'écriture.
D'accord ? Au passage, ça vous situe la culture.
La philosophie travaille là. Elle se sert de ça.
Et elle s'en sert avec le plus d'intelligence possible. Mais la philosophie travaille dans un registre qui n'est pas symbolique.
Alors que ça, c'est la culture. Toute la culture est là.
Alors ensuite, quand on essaye de voir trois positions contemporaines sur la parole, donc vous allez voir qu'elles ont leurs erreurs et leurs limites, mais elles ont un intérêt. La première, c'est Ferdinand de Saussure. Non, de Saussure. Qui est le créateur, si vous voulez, de la linguistique. Qui a eu, c'est ce génie, au fond, de dire la langue, le langage, est quelque chose d'extrêmement riche et de très structuré. Et qui a cherché à analyser le langage, la logique du langage. Et pour ça, il a créé quelque chose que vous avez tous appris en terminale, qui est la distinction entre le signe, le signifiant, le signifié et le référent. Signe, c'est le son, c'est les sons. Le signifiant, c'est le mot. Le signifié, c'est la signification. Qu'est-ce que c'est qu'un chat ? C'est un animal avec des oreilles pointues, des moustaches. Et puis qui fait partie de... Pourquoi la classe des chats ?
Les félins.
Ce qui ne m'invente pas grand-chose, parce que je ne sais pas comment je définis les félins.
Les
C'est à cause des griffes.
À cause des griffes, ah ben voilà. Les oreilles pointues, les griffes rétractiles. Ça, c'est le signifié. Quand je dis chat, je désigne cette signification-là. Et le référent, c'est votre chat, vous. C'est la chose.
C'est très clair.
Quoi?
Si vous appliquez ça à la parole de Dieu, vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que le référent, il est annexe. Il ne m'intéresse pas, le référent. C'est clair que ce qui intéresse Saussure, ce n'est pas le référent, c'est le lien entre le signifiant et le signifié. Ce qui intéresse de Saussure, c'est de voir quel est le lien entre l'agencement des mots dans la langue, dans la grammaire et la loi. La grammaire, ce sont les lois d'agencement des mots dans le langage. D'accord? Ce qui intéresse de Saussure, c'est d'étudier les liens qu'il y a entre la structure des mots les uns avec les autres, la structure du langage et la structure des significations. Comment les significations se renvoient les unes aux autres, comment le langage est organisé d'une manière qui est parallèle ou différente du lien des significations des unes avec les autres. D'accord? Et donc ce qui intéresse Saussure, c'est le fonctionnement du langage. Mais la référence du langage au réel ne l'intéresse pas. Il y a toute une analyse structurale de la parole de Dieu qui est celle-là. C'est-à-dire que vous travaillez là-dessus. Vous prenez un texte, par exemple, puis vous essayez d'agencer la composition, vous voyez, l'organisation littéraire des mots. Et puis vous essayez de voir quelle est l'organisation des situations et des significations qui apparaît à travers ces mots. Mais vous voyez, le réel ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est le fonctionnement des mots et des textes. Alors, c'est intéressant si je le situe à sa place. Donc vous voyez, signifiant et signifié, ça n'a rien à voir avec la distinction d'Aristote. Parce que la finalité d'Aristote, c'est de définir le lien qu'il y a entre mon intelligence, le langage, l'écriture et le réel. Le but de Saussure, c'est de comprendre le fonctionnement du langage. En comparant, vous voyez, la signification, c'est une abstraction, la signification. Vous n'avez jamais rencontré animal aux oreilles pointues, aux griffes rétractiles. Vous ne rencontrez jamais une signification.
Session de théologie, la parole de Dieu par le Père Samuel Arimant, le 30 octobre 1992, quatrième cours.
Avant de reprendre, parce que ce soir il n'y aura pas de questions-réponses, je crois qu'il y aura une conférence du Père Philippe, donc je réponds à cette question-là. Vous lui reposerez toutes les questions demain, il répondra beaucoup mieux que moi. Pourrais-tu, s'il te plaît, ce soir préciser, bon pas ce soir, préciser ce que l'Église entend exactement par le mot révélation? Est-elle une chose une fois pour toutes? Est-elle close une fois pour toutes à la mort de Saint Jean? Ce n'est pas la mort de Saint Jean qui détermine la fin de la révélation. La révélation, elle est close à l'ascension. Elle n'est pas close à la mort de Saint Jean. Et ce que l'Église entend par le mot révélation, c'est ce que Dieu me dévoile de son mystère. C'est tout ce que Dieu me dévoile de son mystère. D'une manière directe, pas par la voie de la création. Alors, la révélation n'est pas enfermée dans l'Écriture, ni dans la parole de Dieu. Mais c'est à travers la parole de Dieu que je reçois la révélation. Alors, qui dit dévoilement du mystère de Dieu, dit qu'elle s'adresse à l'intelligence. Oui.
Ah, vous allez me dire, mais tout à l'heure, je ne comprends plus parce que vous nous avez dit l'inverse.
Alors, pour préciser, du côté formel, la révélation s'adresse à l'intelligence. D'accord ? Une révélation, c'est un dévoilement pour l'intelligence. Comprendre quelque chose, quand tout d'un coup je comprends quelque chose, je me dis, ça se révèle à moi. Ça se dévoile à moi. Donc, du point de vue formel, la révélation s'adresse à l'intelligence. Mais du point de vue existentiel, c'est-à-dire la manière dont la révélation m'est donnée, elle s'adresse aux pêcheurs qui attendent le salut. Oui, ça ne s'oppose pas. Vous voyez ? Concrètement, cette lumière m'est donnée parce que j'attends le salut et que j'en ai besoin pour être sauvé. Mais c'est une lumière qui m'est donnée. Alors, cette lumière, elle a évidemment, parce qu'elle est une lumière sur le mystère de Dieu, elle est aussi pratique. D'accord ? Mais Dieu peut se donner à moi sans se révéler à moi. Tous les hommes de bonne volonté reçoivent la grâce de Dieu, la grâce du Christ. Elle leur est donnée. Mais il ne leur est pas révélé ce qui leur est donné. Vous voyez la différence ? Donc la révélation, c'est le dévoilement du don. Et donc je reçois la révélation dans la ligne de ce don qui est fait aux pécheurs. D'accord ? Si vous ne voyez pas, vous me dites tout de suite. Donc est-elle close une fois pour toutes à la mort de Saint Jean ? Non, elle est close à l'ascension, c'est-à-dire que l'ascension est l'ultime moment où Jésus me révèle le mystère du Père. Après ça, les épîtres de Saint Paul. Alors c'est vrai qu'il y a l'Apocalypse. En fait, c'est vrai que c'est l'Apocalypse. C'est vrai que l'Apocalypse, c'est pour ça qu'elle s'appelle la révélation, parce que apocalyptein, ça veut dire révéler. L'Apocalypse, c'est la révélation, c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que l'Apocalypse est encore une révélation de Jésus-Christ, c'est ce que dit d'ailleurs le texte, faite à Saint Jean. Mais il n'est pas mort après l'Apocalypse. Oui. Ah ben voilà, ce qu'on va préciser. Donc, en fait, la révélation, vous voyez, j'allais dire, elle s'achève avec l'Apocalypse. Ce que je peux dire des épîtres de Saint Paul et de Saint Jean, c'est qu'elles sont déjà, au fond, un commentaire de la révélation. C'est ça qu'on appelle ça des épîtres, d'ailleurs. Ce sont des lettres adressées aux croyants pour les aider à recevoir la révélation. Et c'est vrai que l'achèvement de la révélation, c'est l'Apocalypse. Ça, c'est un autre problème de savoir pourquoi est-ce que la révélation s'achève par l'Apocalypse. Et pourquoi est-ce qu'elle commence par la Genèse. Le commencement de la révélation, je vous disais, c'est pas Abraham. Le commencement de la révélation, c'est quand il est dit à Ève, après la faute, ta descendance lui écrasera la tête. Tous les pères de l'Église ont... On dit au fond, il y a déjà une annonce d'une promesse. Il y a déjà une promesse de salut. Il te visera au talon et tu l'écraseras à la tête. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est le premier évangile, la première annonce de la bonne nouvelle. Donc de cette manière, je peux dire que dès après la chute commence la révélation. Alors, ensuite, l'Église... Ce que fait l'Église après ça, c'est qu'elle n'ajoute rien, elle, à la révélation. Elle se contente de l'expliciter, pas de l'expliquer, ni de la rendre plus lumineuse, mais de l'expliciter, c'est-à-dire d'en désenvelopper la richesse. Elle dévoile la richesse de ce qui m'est révélé dans l'Écriture. C'est pour ça qu'elle est toujours attachée à montrer le fondement scripturel sur lequel elle s'appuie et qui est sa source. Jusque dans le mystère de l'Assomption. Alors elle ne s'appuie pour ça que sur le texte de l'Apocalypse, ce que le Saint-Père a fait explicitement à Lourdes, puisque ce qu'a fait le dogme. Mais elle s'appuie, elle a toujours un fondement scripturaire. Il n'y a rien de l'enseignement de l'Église qui ne me soit donné dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que ça me soit donné sous un mode clair et précis dans l'Écriture. D'accord ? L'Immaculée Conception n'est pas donnée de manière claire et précise dans l'Écriture. au sens immédiat. Mais l'Église a considéré au moment où elle a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception que le mystère nous était révélé quand l'ange dit « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Les révélations privées, elles n'ajoutent absolument rien à l'Évangile. Elles ont pour but d'aider celui ou celle qui le reçoit d'abord lui-même à mieux recevoir l'Évangile. C'est Jésus qui se déplace pour raconter des paraboles, quoi. Enfin, c'est, oui, je me comprends. C'est-à-dire que c'est Jésus qui se... C'est la Vierge Marie, si vous voulez, c'est une révélation qui a pour but de préparer l'intelligence de celui qui la reçoit à mieux recevoir la révélation. Mais normalement, toute révélation privée est faite pour me conduire à l'Écriture. C'est même ça la mesure de sa vérité, de son authenticité. Alors, les dogmes proclamés par l'Église ne sont-ils pas des vérités révélées qui font partie de la révélation ? Bien sûr qu'elles font partie de la révélation, mais, j'allais dire, elles me sont révélées avant que l'Église le découvre. Très impressionnant, vous voyez, ça fait partie de la critique dans certains cas, de certains italiens, de dire au fond, l'Église a inventé les sept sacrements. Parce que c'est vrai, l'Église s'est aperçue qu'il y avait sept sacrements au 12e, au 11e ou au 12e siècle, je crois. Mais elle s'en est aperçue, ça ne veut pas dire qu'elle les a créés à ce moment-là. Vous pouvez tout d'un coup vous apercevoir à 60 ans que vous avez une âme spirituelle, mais ça ne veut pas dire que vous avez attendu cet âge-là pour l'avoir. Donc l'Église, effectivement, de la même manière que l'Église, depuis Paul VI et Jean-Paul II quasiment, découvre que le premier fruit du mariage, c'est l'amour des époux et pas la fécondité. Alors qu'elle a paru, entre guillemets, enseigner l'inverse, parce que quand on regarde bien, en fait, elle n'enseigne pas l'inverse, mais j'allais dire, il y a une maturité sur le sacrement du mariage qu'elle n'a jamais eue. Mais ça ne veut pas dire que le mariage a attendu le XXe siècle pour être donné par Jésus selon sa grâce propre. Vous voyez ? Donc c'est clair que ça fait partie de l'économie divine de savoir pourquoi Dieu a laissé l'Église patiner tant d'années. C'est impressionnant de voir qu'il a fallu 3 siècles pour commencer à pouvoir dire que l'Esprit-Saint était égal au Père et au Fils. Et formellement, vous avez plein de pères de l'Église qui sont à la limite de l'hérésie. Parce qu'ils se sont retrouvés avec la parole de Dieu, puis débrouillez-vous. Mais c'est pas marqué dans la parole de Dieu que le Père il est égal au Fils, à l'Esprit-Saint, que c'est 3 personnes dans une unité de nature. Vous voyez, vous retrouvez que les textes de l'Évangile, puis débrouillez-vous. Ça fait partie de l'économie divine, j'allais dire, et du travail sur la révélation, que le bon Dieu, qui a laissé après la période apostolique, les pères de l'Église, avec leur bonne intelligence, tout à fait stoïcienne ou néoplatonicienne, et donc pas tout à fait disposée au réalisme de l'Écriture, vous voyez, bricoler sur la parole de Dieu, avec un amour gigantesque, mais avec du bricolage du côté de l'intelligence. Très impressionnant, ça, de voir ça. Et on doit se demander pourquoi. Et qu'il y ait des points précis sur lesquels... Pourquoi est-ce qu'on a attendu, encore une fois, le 20e siècle pour promulguer l'Assomption ? C'est quand même énorme, on aurait dû... Il y a des traditions sur l'Assomption, elles datent des premiers siècles. La primauté de Pierre, l'Immaculée Conception. Sans parler d'un des points sur lesquels l'Église n'a encore jamais donné d'enseignement qui soit déterminant, qui est le mystère d'Israël. C'est quand même un problème énorme. Qu'est-ce que Dieu permet ? Quelle est la destinée divine du peuple d'Israël ? Ben c'est vrai, il n'y a pas de texte normatif de l'Église qui ait tranché cette question-là. Il y a des enseignements courants qui sont très riches, mais il n'y a pas de texte normatif, c'est quand même énorme. Ça fait 2000 ans, ce serait peut-être temps. Ça fait partie du travail de la théologie d'ailleurs. Le théologien, c'est pas remplace pas l'enseignement de l'Église, mais l'enseignement de l'Église, il avancera que s'il y a des gens pour labourer la terre. Voilà. Alors ne font-ils que l'expliciter ? C'est énorme d'expliciter la lumière divine. Je peux rien faire de plus. Comprenez, c'est pas avec ma petite bougie que je vais illuminer le soleil. Hein. C'est un travail magnifique d'avoir à expliciter la parole de Dieu. Alors, je voulais... Oui.
Tout à l'heure, tu disais que tu ne pouvais pas lire les différents livres de l'Écriture de la même manière.
Oui.
Parce qu'en fait, ils étaient écrits par des personnes différentes.
Tout à fait, selon des styles et des cultures différentes.
Mais l'auteur principal, c'est quand même l'Esprit
Oui.
Donc il y a quand même quelque chose de commun, on peut lire quand même d'une façon...
Tout à fait. Du côté du cœur.
Du côté du cœur.
C'est-à-dire que on va le voir, c'est le même qui a écrit. Mais il a écrit dans des centaines de styles différents. Ça peut être la même personne, mais il peut écrire une lettre d'amour, il peut écrire un texte d'information en entreprise, il peut écrire une conférence philosophique, il peut écrire un mode d'emploi pour réparation de voiture, il a mille et une manières d'écrire, mais c'est toujours le même qui écrit. Alors, c'est pas tout à fait, il n'y a pas cette, vous voyez, cette aussi grande diversité, mais presque. Dans l'écriture, Dieu écrit des poèmes d'amour, il écrit des sentences de justice, il écrit des textes ironiques, l'Ecclésiaste, c'est de l'ironie divine de A à Z. Lisez l'Ecclésiaste. Il m'écrit des textes qui ont l'air essentiellement géographiques, où il m'explique où se situent les villes, et, ou alors il me renseigne sur, le nombre de bêtes dans les cheptels des différentes tribus. Il m'écrit des textes qui ont une apparence prémoniemment historique. Il m'écrit des textes symboliques qui ont une formulation extérieure mythologique, comme la Genèse. Il m'écrit des textes allégoriques, comme Job. Il me donne des lettres qui ont été écrites par saint Paul à ses disciples sans s'imaginer un seul instant que ça allait être la parole de Dieu. Il m'écrit des visions. Et tout ça pour me dire une seule chose, c'est qu'il m'aime et qu'il se donne à moi, c'est tout. Mais il utilise beaucoup de... Alors quand j'aime quelqu'un, normalement, je me sers de tout ce qu'il m'écrit, même si c'est des choses purement pratiques, pour découvrir qu'il m'aime. Mais vous voyez, nous, c'est la soif qu'on devrait avoir. Ça va être capable de guetter dans tous les textes de l'Écriture, tous les versets de l'Écriture, ça veut dire que Dieu m'aime. C'est ça la foi. Alors, pas au même titre, hein, qu'il y a des textes qui sont évidemment plus proches et plus denses que d'autres. Donc il y a aussi du relief. Mais je dois garder les deux. L'unité de l'auteur de l'Écriture, qui est l'Esprit Saint, et la diversité des instruments dont il se sert. Et je ne peux pas opter. Je ne peux pas dire, ah oui, moi je suis branché sur l'Esprit Saint, donc je n'ai pas besoin de lire l'Écriture, je lui dis, il suffit que je lise le Credo, ou uniquement le chapitre 17 de Saint Jean, j'ai tout dedans. Le reste, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on perd son temps. Sympathique, ça veut dire que le bon Dieu, lui, s'est fatigué pendant des siècles, vous voyez, à nous donner tout ça, et vous, bon, je ne sais pas. Ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que, j'en sais rien si c'est une unité dans l'Écriture, on verra bien. Puis vous vous perdez dans les textes pour plus jamais en ressortir. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le passage, ce va-et-vient entre la foi et le travail théologique.
La richesse propre de chaque langage, comment combler le trou quand on lit l'écriture dans
une autre langue.
Et qu'on a plus cette même richesse.
Tout à fait. Mais c'est que l'avantage, c'est que ça, pour le coup, les sciences humaines me le révèlent. S'il y a une analogie entre la manière de penser, la forme du langage, le mode des comportements, quand je lis l'écriture, j'ai pas besoin de comprendre l'hébreu pour entrer dans la couleur propre de la pensée hébraïque. Parce qu'il n'y a pas que le langage. Il y a les tournures de pensée, il y a les exemples, il y a les métaphores, il y a les manières de se comporter. Mais c'est vrai que ça devrait faire partie de l'intelligence du croyant que de faire l'effort d'entrer dans ce peuple propre que Dieu a choisi. Encore une fois, d'avoir la politesse de faire ce qu'il a fait lui. C'est-à-dire de le respecter, de le comprendre dans son enracinement propre.
Donc on n'a pas le droit d'en faire abstraction et dire
que... Non, pas du tout. Le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui me l'a dit. Il m'a pas dit autre chose. Hein. Ça peut me scandaliser, c'est le problème. Il a dit le salut vient des Juifs. Et puis c'était le texte d'hier, Jérusalem, Jérusalem. C'est l'attachement de Jésus à Jérusalem, c'est quand même pas rien. Et on le voit bien, quand on va en Terre Sainte, on ne peut pas... C'est une autre manière, j'allais dire, d'entrer dans ce... Je ne peux pas en faire abstraction. Si vous lisez saint Paul, il faudrait demander au père Dreyfus, là, mais si vous lisez saint Paul sans rien comprendre à la manière hébraïque de réfléchir, vous ne pouvez rien comprendre. Vous appliquez la logique cartésienne à saint Paul, mais vous devenez fou au bout de 10 lignes. Prenez les textes sur les anathèmes ou les menaces divines. Si vous lisez ça en bon cartésien, Dieu dit qu'il va massacrer tout le monde, puis il massacre personne, alors il ne tient pas ses promesses. C'est tout comme ça. Vous voyez, et on a beaucoup d'efforts à faire, hein. On a plein d'a priori, on a une manière très matérielle de comprendre les choses, et après ça, on comprend notre vie comme on comprend l'écriture. très étonnant, hein, le lieu, j'allais dire, le lieu d'éducation premier de Dieu, c'est pas d'abord ma vie, c'est d'abord l'écriture. Et nous, on n'y croit pas. Vous voyez, j'allais dire, le bon Dieu nous économiserait des accidents si, au fond, on travaillait plus sur l'écriture. Vous voyez, le lieu, j'allais dire, où le Seigneur m'apprend à gouverner ma vie en docilité, à laisser l'Esprit Saint gouverner ma vie, c'est dans la parole de Dieu. Alors, si je ne fais pas attention à la parole de Dieu, il s'en chargera dans l'existence. Et voilà, et je me prendrai un certain nombre de réverbères dans la figure avant de comprendre comment les éviter. Mais si j'avais plus de soif de la parole de Dieu, j'apprendrais à repérer les réverbères dans la parole de Dieu. Mais encore une fois, la parole de Dieu n'est pas abstraite. C'est une parole de vie. Puis c'est ce que nous demande le Concile. Hein. Le Concile a remis ça de manière extrêmement forte. Elle me donne, l'Église me donne tous les jours la parole de Dieu. Même si je ne vais pas à la messe. Elle me la donne, c'est pas, là, je veux dire... L'évangile et l'épître de la messe ne sont pas adressés qu'à ceux qui viennent y participer, elle est adressée à tout croyant. Donc si l'Esprit Saint s'est fatigué à travers l'Église pour me concocter tous les jours quelque chose de propre, ben, ça fait partie, j'allais dire, de la politesse élémentaire, vous voyez, que de demander qu'est-ce qui est à la fête aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas rien. Comme c'est pas simplement des bons théologiens, vous voyez, qui sont réunis, qui ont dit bah, quand même, on va aider les gens, là, on va distribuer les lectures. Ça fait partie, c'est pas une révélation, vous voyez, c'est, je dis, c'est pas objet d'infaillibilité immédiate, c'est sûr, mais ça fait partie de la manière dont l'Esprit Saint mène. Il y a une manière de faire l'exio divina dans l'écriture qui vous apprenez bien plus rapidement, vous voyez, que parce que comme ça c'est fait pour vous convertir, l'écriture, dans les conversions, normalement, des fois on comprend en 30 secondes ce qu'on n'a pas compris en 10 ans. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les moments où tout d'un coup on se convertit. On se convertit plusieurs fois, hein, normalement, régulièrement. Eh bien, c'est des moments où on comprend en quelques minutes des choses qu'on n'a pas compris depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais si je laisse la parole de Dieu me convertir tous les jours, je gagne du temps. C'est vrai, mais c'est... Et en plus, Dieu me dit, la parole est efficace. Le tout, c'est d'y croire. Et de la manger activement, c'est-à-dire de l'apprendre comme une parole qui est vraiment faite pour labourer mon intelligence pour la journée et la convertir vers Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles après. C'est vrai, quand la lumière divine est bien implantée dans la terre de mon intelligence, tout est plus, vous voyez, tout est vu quand même dans une lumière qui est autrement plus profonde, même si elle me blesse, hein, qui est autrement plus profonde que mon petit regard, vous voyez, plus horizontal. Alors, j'ai oublié des choses moins lumineuses, mais qui sont... C'est Heidegger. Vous montrer une autre manière de considérer la parole, qui est aussi très intéressante. Alors, je ne dis pas que vous allez tout comprendre, mais ce n'est pas grave. Il faut l'entendre quand même. L'être humain parle. Nous parlons éveillés, nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si n'écoutant plus vraiment ni ne lisant, nous nous adonnons à un travail ou bien que nous nous abandonnons à ne rien faire. Constamment, nous parlons d'une manière ou d'une autre. Nous parlons parce que parler nous est naturel. Cela ne provient pas d'une volonté de parler qui serait antérieure à la parole. On dit que l'homme possède la parole par nature. L'enseignement traditionnel veut que l'homme soit, à la différence de la plante et de la bête, le vivant capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu'à côté d'autres facultés, l'homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que c'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle. Quoi qu'il en soit, la parole a sa place au plus près de l'être humain. Partout se rencontre une parole. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que l'homme, dès qu'il promène le regard de sa pensée sur ce qui est, trouve aussitôt la parole et aussitôt entreprend dans une perspective décisive de l'accorder sur ce qui se montre d'elle. La réflexion tente de se pourvoir d'une représentation de ce que peut bien être la parole en général. Représenter en général ce qui vaut universellement, tel est à ce qu'on pense couramment le trait fondamental de la pensée. Traiter de la parole en pensant, cela signifie donc proposer une représentation de l'essence de la parole et délimiter comme il faut cette représentation par rapport à d'autres représentations. Si bien, c'est bien ce qu'a l'air de faire présentement notre conférence. Bon, je vous passe quelques lignes. Situer la parole n'est pas tant la porter que nous porter nous-mêmes au site de son être. Cela signifie mise en marche pour un recueil, recueillement. Nous n'aimerions penser que la parole elle-même, nous voudrions simplement aller à sa suite. La parole elle-même est. La parole est rien en dehors de cela. La parole même est la parole. L'entendement mis en condition par la logique, l'entendement qui calcule tout, ce qui le rend en général si sûr de lui, nomme une proposition de ce genre une insignifiante tautologie. Se borner à la répétition « la parole est parole », comment cela peut-il nous mener plus loin ? Mais il ne s'agit pas d'aller plus loin. Nous aimerions seulement tenter d'arriver une fois là même où déjà nous avons séjour. C'est pourquoi nous nous arrêtons pour penser à fond. Qu'en est-il de la parole elle-même ? C'est pourquoi nous posons la question « comment la parole vient-elle à être en tant que parole ?» Réponse : la parole est parlante. Sérieusement, est-ce là une réponse ? C'en est probablement déjà une. Déjà, en effet, s'y vient au jour ce que veut dire parler. Penser en suivant la parole exige donc que nous allions jusqu'au parler de la parole, afin, auprès de la parole, c'est-à-dire en son parler, d'y trouver ses jours. Je saute quelques lignes. La phrase « c'est la parole qui est parole » nous laisse en suspens au-dessus d'un abîme, autant que nous serons endurants à ne pas nous éloigner de ce qu'elle dit. La parole est parole. La parole est parlante. Si nous nous laissons aller dans l'abîme que nomme cette phrase, nous ne nous perdons pas dans le vide d'une chute. C'est vers le haut que nous sommes jetés, dont l'altitude seule peut ouvrir une profondeur. Cette hauteur, cette profondeur, toutes deux, mesurent de part en part un site. Puissions-nous nous y acclimater afin de trouver le séjour où se déploie l'être de l'homme. Parler, penser en suivant la parole, cela veut dire parvenir jusqu'au parler qu'est la parole, et d'une manière telle qu'il advienne en propre et ait lieu comme cela qui accorde séjour à l'existence des mortels. Alors, je passe sur la suite. Mais vous remarquez, je vous lis quand même quelques lignes plus loin parce que ça nous intéresse. Donc, il nie l'assimilation de la parole à une activité humaine. Vous avez remarqué, hein, la parole est quand même montrée comme une réalité en soi. Devant cette assimilation de la parole à une activité seulement humaine, d'autres soulignent au contraire que le verbe de la parole est d'origine divine. Le début du prologue de l'Évangile selon saint Jean nous enseigne que le verbe était à l'origine avec Dieu. Mais on ne cherche pas à libérer des entraves de l'explication logique et rationnelle la seule question de l'origine. On écarte aussi les bornes d'une description seulement logique de la parole. Alors, vous voyez que l'intérêt de Heidegger, c'est de renverser les choses. Jusque-là, l'homme parlait. L'homme parle. Et la parole est relative à l'homme. Le travail d'Heidegger, c'est de dire non. Quand la parole est vraiment parole, c'est l'homme qui est relative à la parole. Et l'homme est ce qu'il est dans la parole. C'est-à-dire que la parole est inclusive de l'homme. Ça, c'est le Heidegger de la deuxième phase. Hein. Le premier Heidegger n'est pas comme ça. Il ne parle pas de la parole dans cette manière-là. C'est déjà ce que Heidegger avait fait sur l'être. Il avait dit l'homme est. Et l'être est relative à l'homme. Et puis il disait au fond, dans un deuxième temps, c'est pas l'être qui est relatif à l'homme, c'est l'homme qui est relatif à l'être. Et c'est en niant la relativité de l'être à l'homme que je découvre la relativité de l'homme à l'être. Et il dira l'homme est le berger de l'être. Comme là, il dit que l'homme doit habiter dans le séjour de la parole. Ce qui est intéressant, vous voyez, il y a deux choses qui sont intéressantes dans la recherche d'Heidegger. D'abord, la négation de la parole comme simple instrument de l'homme. Comme si la parole n'était qu'un outil logique. Au même titre que l'ordinateur. Comme si, vous voyez, la parole n'était qu'un moyen de communication que l'homme plie à sa volonté. Ça, c'est la première intuition d'Heidegger qui est intéressante. C'est de dire la parole précède l'homme. Et la deuxième, c'est au fond de dire que la parole prise pour elle-même me révèle quelque chose de l'homme. Alors évidemment, la limite d'Heidegger, c'est que il n'accentue que ce côté-là. J'allais dire, il l'applique, hein. Encore une fois, il l'applique, ce qu'il dit de l'être à la parole. On peut faire toute une, j'allais dire, toute une théologie à partir de ça, qui est une théologie uniquement de la parole. C'est de dire, l'essentiel du mystère de Dieu, c'est la parole. C'est pour ça qu'on traduit souvent, au commencement était le Verbe, par au commencement était la parole. Il y a une théologie derrière cette traduction. Dire qu'au fond, si le Verbe, qui est le Christ, est Dieu, Dieu est parole. Et à partir de ça, on dira, mais au fond, Dieu est communication. Et il est communication éternelle à lui-même. Et toute la révélation de Dieu, c'est de créer un être auquel il puisse se communiquer. Donc vous voyez, on finit par, au lieu d'avoir une théologie qui est fondée sur l'être, on a une théologie qui est fondée sur la parole. Donc au lieu d'avoir une théologie fondée sur l'être et la personne, on a une théologie qui est fondée sur la communication. Ou qui se veut d'abord fondée sur l'amour. Et on finit par relativiser l'être à la communication et à l'amour. C'est très séduisant, vous voyez, parce que c'est beaucoup plus... Imaginativement, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est très dangereux, j'allais dire précisément, parce que je ne suis plus en face de la distinction entre la parole et l'être. Dieu n'est pas parole, ça ne veut rien dire. Pour parler, il faut avoir une bouche. Et on verra, le problème essentiel est de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle. Vous voyez, là, j'allais dire, il y a une espèce de... Vous voyez, on rend la parole transcendantale. On transforme la parole en mystère, ce que fait Heidegger. Et au nom du fait qu'on transforme la parole en mystère, on identifie Dieu à la parole. Comme si l'essentiel de l'homme était la parole. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut en garder de positif, hein, de Heidegger. La difficulté, dernier élément, enfin essentiel quand même, d'une théologie basée sur Heidegger, c'est que je ne distingue plus, encore une fois, je ne respecte plus la transcendance absolue de Dieu par rapport à l'homme. Seul l'être, rappelez-vous ce qu'on a vu ce matin, est capable de respecter la distance infinie, tout en parlant réellement de Dieu, de respecter la transcendance de Dieu. La parole est dans le devenir. Et dire que Dieu parle, c'est déjà un problème. C'est vrai. Est-ce que c'est Dieu qui parle dans la parole de Dieu? Ou est-ce que Dieu se sert de gens qui parlent pour me dire ce qu'il veut me dire? Vous ne dites pas parole d'Isaïe. Vous devriez dire parole d'Isaïe me révélant le mystère de Dieu. Et vous dites parole de Dieu, c'est énorme de dire ça. Alors ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes dans la démarche d'Heidegger. La première, c'est de dire que la parole me précède. Ce qui est tout à fait vrai. Quand on a appris notre langue maternelle, nous avons appris notre langue maternelle avant de la comprendre. Et nous nous sommes insérés dans le langage avant de le maîtriser. Et nous ne pouvons jamais complètement maîtriser la parole, parce que la parole est une œuvre, c'est vrai, ça a quelque chose, on le reverra, de symbolique, la parole. C'est une œuvre dont je n'ai pas la maîtrise. Toutes les tentatives de création d'un langage ont été vouées à l'échec. Vous voyez, je rentre dans le langage qui est celui de ma culture, comme je rentre dans ma culture. Et même la manière dont je rentre dans la culture, c'est par le langage. Je peux même dire que l'apprentissage du langage, c'est l'apprentissage de ma culture. Et l'enfant rentre dans sa culture et bénéficie des bienfaits et des limites de sa culture, d'abord à travers le langage. Puis par l'écriture. Donc en ça, ce qui est intéressant chez Heidegger, c'est de refuser de regarder la parole uniquement comme un instrument. Alors, la différence, c'est que ce que dit Heidegger n'est vrai que de la parole de Dieu. Le propre de l'homme, c'est de ne jamais se laisser dépasser par la parole. C'est le propre de l'intelligence. L'intelligence, on l'a vu encore selon ce que disait Aristote, est fait pour transcender le langage et pour distinguer ce qu'il atteint du langage. Mais pour distinguer le moyen, le médiateur par lequel j'atteins le réel, le langage, dès que je réfléchis, je parle. Ça, c'est vrai. Encore faut-il que je distingue le moyen par lequel je m'aide à rejoindre le réel et ce que je rejoins du réel. C'est la différence entre la pensée et la philosophie. Quand vous pensez sur les mots. Quand vous réfléchissez sur le réel, vous vous servez des mots pour réfléchir sur le réel. Il ne faut pas confondre les deux. L'intelligence, elle est faite pour le réel, pas pour les mots. Et donc c'est vrai que au point de vue humain, j'ai à dépasser la parole. Et donc en cela, la philosophie d'Heidegger, j'allais dire, n'est pas justifiable au point de vue d'une philosophie de la personne. Par contre, par rapport à la parole de Dieu, j'ai d'abord à m'immerger dans la parole de Dieu. Ça, c'est tout à fait vrai. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez, la théologie de la bonne terre, c'est vraiment cette théologie de la réception de la parole. J'ai à me laisser façonner par la parole de Dieu. Je n'ai pas à me laisser façonner par la parole humaine. J'ai à me laisser façonner par la parole humaine pour éduquer la dimension culturelle de mon être. C'est vrai. Quand vous arrivez dans un pays, par exemple en Hollande, et vous avez à essayer de comprendre la culture des gens de ce pays, c'est clair que l'apprentissage de la langue est essentiel dans la compréhension de sa culture. C'est le grand moyen d'entrer dans sa culture. C'est ce qu'on voit bien. Si vous arrivez en Chine ou en Corée et que vous essayez de rentrer dans la culture du pays sans apprendre la langue, vous allez rester extérieur à sa culture. 50 ans plus tard, vous serez extérieur à sa culture. Vous voyez, ce qui montre bien que l'homme peut choisir de s'immerger dans la parole pour la dimension culturelle de son activité, d'accord ? Pour la dimension politique, dirait le philosophe. Pour la part politique de son activité, l'homme, pour chercher à comprendre une culture, s'immerge dans le langage. Mais il n'y perd pas sa personne ni son intelligence. Avec tous les risques que ça comporte. Hein. Il faut demander à nos frères qui sont là en Chine, on voit bien. La manière dont, au fond, un mode de pensée exerce sur moi une séduction extrêmement grande quand je rentre dans le langage. Parce que j'ai découvert qu'effectivement, quand je ne suis pas suffisamment lucide sur, vous voyez, sur la distinction entre mon intelligence et ma manière occidentalo-française de penser, le jour où je découvre un langage et une manière de penser complètement différente, je peux être séduit. Et c'est capital, j'allais dire, pour l'inculturation, que de dépasser le langage de son propre pays. Enfin, ça fait partie normalement essentielle de, non pas de l'éducation donnée par les parents, mais de l'auto-éducation de la personne humaine à partir du moment où il est adulte, qui est précisément d'apprendre à transcender sa culture, et donc à dépasser le langage. Et la philosophie n'est pas une aide pour rien, vous voyez, je veux dire, c'est précisément le dépassement du langage. Donc ce qui est intéressant chez Heidegger, c'est de dire... Là où il est vrai, c'est pour la culture, et là où il est vrai, c'est pour la parole de Dieu. Que dans la parole de Dieu, alors là, j'ai à me laisser complètement façonner par la parole de Dieu. Et me laissant façonner par la parole de Dieu, je serai façonné par quelque chose de la culture hébraïque et de la culture grecque. Ça, il faut que je sois lucide. Mais si Dieu les a choisis, il sait ce qu'il fait. C'est étonnant, hein, parce que la culture hébraïque, c'est une culture dont la noblesse propre est d'avoir été choisie par Dieu. Ce n'est pas du tout une culture dont la noblesse est préalable au choix de Dieu. Le peuple hébreu, c'était une peuplade de gens qui n'avaient absolument rien pour être choisis par Dieu. Il y avait d'autres lieux bien plus intéressants sur la terre. Il y avait toute l'Inde, il y avait toute l'Égypte. C'était quand même autre chose. Et inversement, les Grecs sont choisis par Dieu pour une toute autre raison que le peuple hébreu. Très intéressant de voir les deux cultures que Dieu choisit par lesquels il choisit de marquer notre intelligence. Une culture symbolique extrêmement proche de l'existentiel et du concret, et la culture la plus fine du côté de l'intelligence et de la contemplation philosophique. C'est impressionnant. Et ça fait partie, ça, du réalisme, de l'économie divine dans la parole de Dieu. Et l'autre chose intéressante d'Heidegger, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que la parole exprime de l'homme. Ouais, c'est ça que veut dire Heidegger, c'est au fond que l'homme parle, c'est pas une fonction efficace. La parole me révèle quelque chose de ce qu'est l'homme. C'est ça l'intuition de fond d'Heidegger. Alors, comme toujours, il la pousse artistiquement et esthétiquement trop loin, mais ça, c'est intéressant. Et j'allais dire, pour nous, au point de vue théologique, pourquoi Dieu choisit de me parler ? Au lieu, encore une fois, de m'infuser dans mon intelligence de manière directe des idées innées, rectifiées, corrigées sur la révélation et ce que Dieu me dit. Pourquoi prend-il le risque de la parole ? Il prend un double risque, vous voyez, celui d'une part de me parler, d'autre part que moi, après ça, je vais parler pour essayer d'expliquer ce qu'il a dit. Pardon, mais c'est un peu compliqué. C'était plus simple, encore une fois, d'illuminer tout le monde. Là, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Je ne sais pas si vous voyez le travail. Faut que, dans l'Église, il faut arriver à se mettre d'accord avec l'Esprit-Saint sur ce que dit la parole. Vous voyez, il y a un travail de charité fraternelle qui est extrêmement laborieux, mais qui du coup est sans doute extrêmement fécond. La lectio divina, c'est pas pour rien, hein, ça constitue l'unité, enfin vous voyez, ça soude l'unité d'une communauté chrétienne. C'est clair, parce que ça me fait travailler sur la vérité telle qu'elle m'est donnée dans l'Écriture. Encore faut-il travailler, il ne s'agit pas que chacun, vous voyez, se gargarise de sa propre interprétation, c'est pas ça le but. Mais de se mettre d'accord avec tout ce que ça implique, vous voyez, de frottement. Pour réaliser par le labeur de la charité fraternelle ce que Dieu aurait dû réaliser si j'avais été à sa place, vous voyez, de manière immédiate. Si on était tous, par baptême, par la grâce du baptême, informés de tout ce qui est juste sur la révélation, on serait tous d'accord. Comme ça, il n'y aurait même pas besoin d'ouvrir la bouche, on serait d'accord. En plus, on ne ferait plus d'erreurs, ça serait inimaginable, mais ça serait tranquille. Tout fonctionnerait comme du papier à musique. L'Esprit-Saint n'aurait plus qu'à pianoter et à m'informer de ce qu'il faut que je fasse à chaque moment. Et rien du tout. Il me donne sa vie divine et il me laisse dans le noir. Et il faut que j'aille avec des gens qui ne comprennent pas mieux que moi essayer de comprendre quelque chose sur le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de l'Église, vous voyez, de la tradition. Alors, le dernier élément, c'est la psychologie, surtout américaine, notamment deux braves gens qui s'appellent Searle et Austin. L'archéologie, on travaille dans une direction qui n'a rien à voir avec Heidegger et encore moins avec Saussure, mais qui est plus. Enfin, qui rejoint quelque chose de l'intuition d'Heidegger, qui est de dire au fond, la parole, c'est pas simplement fait pour signifier des choses, c'est fait pour se rendre présent. Si je parle, c'est pour être là. Vous voyez bien, quand dans la récréation, tout d'un coup, un frère ne parle plus, ou dans une réunion de famille. Vous avez tout d'un coup le petit cadet qui ne dit plus rien. Il a un grand sourire, mais il ne dit plus rien. Ça fait un mois qu'il ne dit rien. Ben, vous vous inquiétez. Vous dites, mais le pauvre petit, il a des problèmes, ou mon pauvre frère, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, ce qui montre bien qu'il se rend, il s'absente par le silence. Mais il n'a peut-être rien à vous dire du côté du contenu. Et bizarrement, la parole ne sert pas qu'à signifier un contenu. C'est vrai, dans les récréations ou dans les réunions familiales, le but n'est pas d'abord de s'informer théologiquement. Le but, c'est de partager. Vous voyez, qu'est-ce que la parole permet ? Comment je me rends présent à travers la parole ? Alors, le risque, c'est évidemment de réduire la parole à ça. Vous voyez, c'est le risque de ce travail-là. C'est de se focaliser complètement sur la manière dont le... Alors, il y a un exemple qu'ils aiment énormément, c'est ce qu'ils appellent les actes performatifs. C'est-à-dire que vous faites ce que vous faites en le disant. Par exemple, quand vous dites « je promets ». Il n'y en a pas beaucoup d'exemples comme ça, alors ici, tout le temps les mêmes. Quand vous dites « je promets », vous promettez en même temps que vous le dites. Mais si vous dites « j'ouvre la porte », ce n'est pas vrai. Vous dites « j'ouvre la porte », vous ne l'ouvrez pas, vous le dites. Très bien, mais maintenant, fais-le. Alors que quand quelqu'un vous dit « je te promets de », vous ne lui dites pas « fais-le ». Vous voyez ? Donc ce qui les intéresse, c'est les lieux,
qu'est-ce qui est impressionnant dans les vœux perpétuels ou dans le mariage, c'est ça. En dehors de l'aspect de la grâce, hein. Mais qu'est-ce qui humainement est impressionnant? C'est que vous assistez en direct à un acte par la parole. Vous dites, je promets à Dieu pour toujours, et vous le promettez. C'est-à-dire que l'acte coïncide avec la parole. Et dans le mariage, vous dites, je te reçois comme épouse. Alors, ce petit exemple montre qu'effectivement, là on est bien obligé de voir que la parole rend présent, d'une manière qui est même irréversible. C'est pour ça qu'on tremble quand on prononce son engagement. C'est normal. Et vous voyez, c'est très étonnant que vous voyez les frères chantent. Parce que les frères chantent quand il s'agit de chanter, vous voyez, pour les autres, ça va très bien. Mais le jour où il faut chanter pour eux, ça ne va plus du tout. Le jour où ils s'engagent, à ce moment-là, la voix n'est plus tout à fait la même. Alors évidemment, la pauvreté, la limite, on va le développer de cette approche-là, c'est de ne pas être parti assez, de ne pas avoir travaillé assez sur la comparaison entre la parole et le geste. Parce que une des grandes pauvretés de toutes ces analyses de la parole, c'est précisément de ne pas avoir travaillé en comparaison avec le geste. Et de finir par considérer la parole de manière extrêmement intellectuelle. Surtout Saussure. Saussure voit absolument plus. Il travaille sur le langage, vous voyez. On est à infiniment loin du problème de la voix et du corps. Or, la parole, j'allais dire, c'est d'abord comme un geste. Pour parler, il faut avoir une bouche, il faut parler. Alors, vous allez me dire, du coup, ça pose des problèmes, parce que comment est-ce qu'il fait Dieu pour parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on ne me dit pas que Dieu communique? On ne dit pas communication divine quand on élève l'évangile. Vous ne dites pas non plus révélation divine. Vous ne dites pas c'est marqué dans l'écriture. Vous dites parole de Dieu. Donc j'ai à essayer de comprendre ce qu'est la parole et ensuite par analogie de voir comment est-ce que ça, qu'est-ce que ça me révèle de la manière dont Dieu se communique. Parce que c'est ça ma question dernière. Qu'est-ce que ça me révèle de la manière dont Dieu se communique? Comment Dieu se communique à moi? Vous allez me dire, l'important c'est pas comment il se communique, c'est ce qu'il me dit. C'est pas vrai. Quand on aime quelqu'un, la manière dont on l'aime est intrinsèquement lié à l'amour qu'on a pour lui. Vous voyez bien, l'autre qui dit, mais oui, mais je t'aime, c'est pour ça que je te marche sur les pieds, mais je t'aime, le contenu est toujours le même. T'inquiète pas, j'ai la tête de 6 pieds long, mais je t'aime, le contenu est le même. C'est vrai si vous lui demandez des renseignements, vous voyez, administratifs ou financiers. Combien est-ce qu'il fait de degrés dans la chaudière? Il vous dira 40 degrés. Et quel que soit le ton, l'important c'est que vous ayez l'information. Mais quand il s'agit d'aimer, oui, quand il s'agit simplement de l'intelligence, la manière de le communiquer n'a pas beaucoup d'importance. On peut être insupportable en faisant un cours de philosophie. C'est pas gênant pourvu que ça soit intelligent. C'est mieux si ça ne l'est pas, mais si ça a besoin de l'être pour que ça soit plus intelligible, tant mieux. Mais quand il s'agit de l'amour, c'est pas vrai. La manière d'aimer est essentiellement liée à l'amour, parce que l'amour est de l'ordre de l'exercice. Et donc, quand il s'agit de la révélation, la manière de se révéler est essentielle vous voyez, au contenu même de la révélation. C'est ce qu'on voit, une mère de famille ne murmure pas. Vous voyez, elle a différentes manières de parler. De temps en temps, elle vient murmurer à l'oreille de son enfant, lui chuchoter quelque chose. À d'autres moments, elle élève le ton. À d'autres moments, elle lui explique. À d'autres moments, elle lui dit rien et elle lui demande de le suivre. Là, Dieu prend ses modalités de présence. C'est ça la richesse de cette réflexion. C'est d'essayer de recevoir la manière, vous voyez, les modalités de présence de Dieu à travers l'Écriture. Exactement comme dans les sacrements. Nous, on est très univoque. Jésus est présent dans l'Eucharistie, il est présent dans le sacrement des malades, il est présent dans le sacrement de pénitence, il est présent partout. Alors pourquoi est-ce qu'il en a fait 7? Parce qu'il fallait bien diversifier, vous voyez, et puis... Non, ce qui est intéressant... Enfin, l'important du croyant, c'est de recevoir les différentes manières dont Dieu se donne à moi. Encore une fois, une mère, elle aime différemment son enfant. Quand il faut l'embrasser, quand il faut le consoler.